Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
Les experts du jour, Fergan Aziari, délégué général de l'Académie libre des sciences humaines, André Lesecroque-Pietri, fondateur du fonds à capital, président de Jedi, allez, je fais simple, hein, c'est la DARPA européenne, André, et puis Romain Rivaton, président de Stonal, fondateur de Real Estate. Messieurs, nous étions en train de discuter, donc voilà, on se disait, bon voilà, la loi pouvoir d'achat, ça a été compliqué, on a lâché beaucoup d'argent, et puis on arrive là avec des prévisions de prix d'électricité stratosphériques pour cet hiver, des boucliers qui s'arrêtent, qu'est-ce qu'on fait, Fergan?
Et en fait, je vais encore rejoindre ce que disaient mes interlocuteurs. Il n'y a pas grand-chose à faire. Je veux dire, l'augmentation du prix de l'énergie, c'est une conséquence logique de la pénurie qui s'annonce. Je veux dire, c'est le rôle du système des prix de renchérir l'usage d'une ressource rare dès lors que celle-ci se raréfie. Et c'est là d'ailleurs où on mesure l'incohérence des politiques qui ont été jusque la mise en œuvre, puisqu'on a décrété un bouclier tarifaire qui finalement a consisté à casser le thermomètre. On a dit aux gens, voilà, il y a une réalité. Cette réalité, je vais vous en protéger. Elle n'existe pas, la réalité. Bon, et quelques mois plus tard, on va revenir dessus, pour rationner l'énergie. C'est-à-dire que là, on prépare des mesures de délestage, des mesures de rationnement, des coupures d'électricité ciblées. Enfin, on prépare les esprits quand même à des politiques de rationnement.
Enfin, fondamentalement, quand un marché s'ajuste pas par les prix, puisqu'on refuse
qu'il s'ajuste par les prix. Oui, c'est exactement ça. On refuse effectivement que le marché s'ajuste par les prix, alors même que c'est son rôle. Le marché, son rôle, c'est bien de réguler la rareté par l'augmentation des prix, faire en sorte que l'augmentation des prix invite les usagers et les industriels à la modération, puisque dès lors qu'une ressource coûte plus cher, eh bien vous êtes invité vous-même à en consommer moins, afin de réserver la ressource aux usages les plus valorisés. C'est le rôle des systèmes de prix. On n'a pas voulu effectivement mettre en œuvre ces mécanismes de prix, donc on va décréter des coupures de manière politique, de manière arbitraire, avec là encore des risques de couper de l'industrie qui serait peut-être essentiel, enfin je ne sais pas. Donc ça, c'est inévitable. C'est-à-dire, on se dirige vraisemblablement vers ça. Maintenant, il faut voir, je crois, à long terme et dire qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus subir cette situation. Et le diagnostic, il faut le poser, c'est que depuis des décennies, l'Europe organise le sabotage de son système électrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas cessé de fermer des moyens énergétiques pilotables pour les remplacer par des moulins à vent qui ne sont disponibles que, vous le savez, que très rarement en raison de l'intermittence et de la faible puissance. L'Allemagne, là-dessus, fait office du pays le plus stupide en la matière. C'est vraiment le boulet du système énergétique européen. La France s'est tiré une balle dans le pied en fermant la centrale de Fessenheim. Mais c'est une tendance, celui qui est globale. Il y a quelques mois, avec un ingénieur belge qui s'appelle Philippe Charlez, on a écrit une tribune dans Le Figaro. On avait vu que depuis 20 ans, 5000 milliards de dollars ont été investis dans les énergies renouvelables intermittentes que sont l'éolien et le solaire. 5000 milliards de dollars sur 20 ans, pour quel résultat ? Pour seulement 12% de l'électricité mondiale. On ne va pas me faire croire que c'était là le choix le plus efficient. On avait fait un calcul, si ces 5000 milliards de dollars avaient été investis dans l'énergie décarbonée la plus efficace qui existe à ce jour, qui est le nucléaire, c'est plus de la moitié de l'électricité mondiale qu'on aurait pu décarboner, tout en assurant à l'échelle du continent et à l'échelle internationale, une plus grande sécurité énergétique. Donc, regarder dans le rétroviseur, c'est aussi utile pour comprendre ce qu'on a fait de mal. On a perdu 20 ans à, en effet, dilapider des sommes faramineuses dans des sources d'énergie qui sont non fiables. Il est toujours possible de rectifier le tir pour cesser de faire des bêtises et assurer aux Européens et à l'ensemble de l'humanité une énergie fiable et décarbonée.
Oui, mais pour ça, André et Robin, il faudrait que le logiciel politique y change. Or, on voit bien, d'ailleurs je ne sais pas si un jour on fera le procès des écolos anti-nucléaires, parce que quand même, quand on regarde ce que ça nous coûte depuis la fermeture de Superphénix, quand Lionel Jospin veut faire plaisir à Dominique Voynet pour des sombres combinaisons politiques de court terme, quand on ferme Fessenheim, etc., là encore pour des raisons bassement enfin je veux dire, André, vous parliez du logiciel de nos politiques,
ça va, moi ça je va suis un faire. Tout petit peu moins dur que Verzane, parce que je pense que sur le nucléaire, d'abord, on peut le sujet dépasse le sujet purement économique. Deuxième chose, quand vous regardez le Danemark qui aujourd'hui a plus de 50% de son mix énergétique qui vient du renouvelable, c'est pas du tout le désastre dont vous parlez. Le sujet de l'Allemagne que je connais relativement bien, d'abord, ça a profité à certains, ça a profité notamment grandement à la Chine, dont l'industrie a beaucoup bénéficié des achats de panneaux photovoltaïques qui, je rappelle, à 99,5% sont produits là-bas. C'est juste qu'ils ont mis en place un système de prix garanti, les fameux feed-in tarifs ont coûté une fortune, entre 40 et 50 milliards par an au budget allemand. Pour quel résultat, effectivement. L'autre chose en termes de retour d'expérience, parce qu'avant qu'on se replonge sur le nucléaire, pour être crédible, il faut aussi être honnête. Aujourd'hui, par exemple, le sujet de l'EPR, et je pense que je ne vais pas me faire des amis, donc je vais continuer sur la lignée de la première partie de ce. L'EPR, aujourd'hui, est une catastrophe industrielle. Il faut aussi avoir le courage de le dire. Il n'y a aucun EPR qu'on a fait qui n'a pas un doublement ou un triplement du budget initial et qui a pris moins de 10 ou 15 ans à être mis en place. Oui, qui aujourd'hui apparemment a certaines fuites radioactives où aujourd'hui nos tolérances sont peut-être un petit peu les mêmes. Mais effectivement, vous avez raison, mais nous on n'a pas la capacité d'exécution des Chinois, donc faut être aussi honnête vis-à-vis de ça. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait sur la suite des événements ? Moi je vois aujourd'hui que les Américains, les Italiens investissent sur des sujets comme la fusion nucléaire, comme les petits réacteurs nucléaires. C'était un des grands sujets de France 2030, là, qu'on a annoncé avec force trémolo en novembre dernier. Où est-ce qu'on en est ? On a réussi en 313 jours à créer un vaccin contre le Covid. Pourquoi faut-il 10 ans pour créer la future génération de réacteurs nucléaires ?
Ça, c'est bien, mais il y a tout un tas d'autres possibilités. Est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, aussi, vous parliez de petits réacteurs nucléaires, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire tout un tas de petits barrages, par exemple, puisqu'on est les spécialistes des très grands barrages, il y aurait aussi possibilité...
On a un sujet dans le logiciel, c'est que le temps... Rosane parlait tout à l'heure de la politique du budget. Aujourd'hui, on considère qu'une bonne politique en France, mais en Europe, c'est la même chose. Quand j'entends Mme von der Leyen parler de ses milliards, on a toujours l'impression que la planche à billets fonctionne à la Commission européenne comme à Francfort. C'est un peu étonnant. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces milliards et avec quelle rapidité on les déploie. Aujourd'hui, le temps est tout aussi important que l'argent. Là, pour le coup, le président de la République avait bien vu, à nouveau, quand il annonçait France 2030, en disant une bonne décision ou une bonne invention 6 mois trop tard ne vaut rien. Et bien, effectivement, il faudrait que dans nos politiques publiques, dans notre logiciel, le sujet du temps. Donc, quand je vois effectivement qu'on laisse maintenant les députés en vacances jusqu'au 3 octobre, je ne comprends pas. On est dans une urgence absolue. Pour moi, la Chambre des députés, ils viennent d'être élus, ils sont en pleine forme, pour la moitié d'entre eux, puisqu'ils sont nouveaux, eh bien, qui bossent jour et nuit pour essayer de sortir de la situation. Enfin, est-ce qu'on dit la vérité aux Français ? On va avoir une crise industrielle et économique en Allemagne d'une ampleur considérable. Quand BASF ou d'autres chimistes vont licencier 10, 20, 30 000 personnes parce qu'ils ne peuvent plus produire de la chimie parce qu'ils n'ont plus de gaz russe. Que l'industrie chimique alimente tout. Les peintures, les plastiques, l'automobile, l'aéronautique, que ça va se répercuter dans nos chaînes de production. On l'a bien vu ce qui s'est passé pendant le Covid. Qu'on va devoir partager notre gaz avec les Allemands, ce qui était une bombe à fragmentation pour la cohésion européenne. Est-ce qu'on dit ça ? Non. Ce qu'on dit, c'est couper vos Wi-Fi et fermer la porte des magasins climatisés. Je pense qu'il faut être beaucoup plus... Je revoyais le film Churchill. J'attends de mon gouvernement aujourd'hui qu'il prédise pour les prochains mois du sang, des larmes, de la sueur et rien d'autre. Et je pense aujourd'hui les Français sont prêts à l'entendre. Et il faut que les plus fragiles soient protégés. Je n'entends rien de tout ça. On va protéger tout le monde. Tout va bien, Madame la Marquise. La catastrophe, moi je pense, elle est très inquiétante pour les prochains mois. Ouais.
Romain Ribaton.
Ouais, on a brassé beaucoup de sujets, moi, sur la politique énergétique européenne. Le problème, c'est que c'est pas un monolithe. Les 5 000 milliards, ils ont pas été investis par une personne. C'est un ensemble d'acteurs et c'est plein de canaux différents. La bonne nouvelle, c'est que il y a de plus en plus d'argent privé mené par des investisseurs professionnels qui se dirigent vers les climate tech en général. Donc des entreprises qui vont aider à produire mieux des renouvelables ou de l'énergie nucléaire ou d'autres types de ressources, de la géothermie notamment, par exemple, un secteur qu'on a totalement délaissé aussi sur la période. Et donc il y a de plus en plus d'argent privé qui est en train de évidemment, qui est beaucoup plus efficace quand il est déployé. Et donc, ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. L'Europe a quand même permis, en tout cas par sa massification du renouvelable, et pas que l'Europe, hein, la Californie, un peu aussi la Chine dans les dernières années, ont permis d'abaisser le coût de ces technologies pour des pays qui ne peuvent pas avoir accès au nucléaire civil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas avoir accès au nucléaire civil. Heureusement qu'on a fait les efforts d'amélioration des panneaux photovoltaïques pour leur permettre d'avoir accès à l'électricité. Donc il ne faut pas non plus jeter le bébé avec l'eau du bain. On a fait un effort pas tellement pour l'Europe, plutôt pour une contribution pour le reste du monde, mais ça a quand même eu des effets. Sur l'éolien offshore, aujourd'hui, on arrive à des prix sur les côtes britanniques, sur les côtes danoises en mer du Nord, on arrive avec des intermittences qui sont extrêmement faibles, et on a des prix de revient qui sont extrêmement compétitifs. Donc il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Le sujet, c'est qu'effectivement, on n'a pas eu une politique européenne stratégique. On a eu des politiques nationales soumises à des intérêts, on l'a dit, particuliers. D'un côté, les Verts allemands, de l'autre côté, les Verts français. Enfin bref, on a eu des politiques éclatées. Ces politiques éclatées, aujourd'hui, nous explosent à la figure parce que les Allemands, qui est effectivement la plus grande puissance économique de l'Europe, a fait un choix qui était de construire une industrie compétitive basée sur du gaz en grande quantité, à peu de frais, gaz russe. Et vous vous souvenez, hein, quand Trump leur avait dit que c'était un pari dangereux et qu'ils avaient explosé de rire à la tribune des Nations Unies. Bon, bah, la vérité, c'est que c'était un pari dangereux. Ce pari, aujourd'hui, se révèle plus que dans une phase critique. Et donc, on va effectivement, moi, je partage totalement ce qui vient d'être dit, on rentre dans une phase extrêmement compliquée pour la zone euro, puisque là, maintenant, pour l'Europe en global, c'est que les égoïsmes nationaux vont ressurgir de manière extrêmement forte. Et c'est normal. C'est normal quand l'Espagne et le Portugal, qui ont fait des investissements massifs en éolien, qui se retrouvent aujourd'hui en éolien et en solaire, et qui se retrouvent aujourd'hui avec une électricité décarbonée, qui ont un petit peu de gaz qui leur vient d'Algérie, qu'on leur dit ben, grosso modo, il va falloir que tu fermes 15% pour pouvoir aider les Allemands et l'Europe de l'Est, ben, ils disent non. Ils disent non, et en même temps, on aura du mal à leur jeter la pierre de dire non. Donc, on voit bien que ça va être très, très compliqué de passer cette phase-là, et ça peut être une phase d'accélération de la fragmentation de la zone.
Mais pour poursuivre sur l'Europe, Fergan, finalement, quand on met bout à bout, crise sanitaire, la guerre en Ukraine, finalement, ça se passe chez nous, c'est nous les plus pénalisés. La crise énergétique qui en découle en partie, parce qu'elle n'a pas que ses racines dans la guerre en Ukraine, bah, mine de rien, c'est quand même l'Europe qui est la plus pénalisée quand vous avez des États-Unis qui sont quasiment indépendants. Ouais. Sur le plan énergétique, on avait déjà beaucoup de retard sur la technologie. Est-ce que finalement on prend un retard à nouveau, alors j'ose pas dire décisif, mais est-ce qu'on prend du retard supplémentaire sur des pays qui ne se posent pas les mêmes problèmes démocratiques que nous, comme la Chine, ou sur des pays qui ont des technologies plus poussées que nous, comme les États-Unis?
Alors, de là à dire que l'Europe serait le continent le plus pénalisé, je pense qu'il faut quand même se décentrer.
Ah, c'est encore un peu l'idiot du village global.
On est quand même un continent riche, et quand vous regardez ce qui se passe en Afrique...
Ouais, mais riche, c'est une photo, Fergan, c'est pas un film.
Quand vous allez regarder en Afrique subsaharienne ce qui se passe avec les crises alimentaires qui se profilent en raison, effectivement, de la perturbation des chaînes de valeur et du commerce mondial agricole... Bon, je pense qu'il faut quand même relativiser nos problèmes parce que on n'est quand même pas les moins bien lotis. C'est-à-dire qu'il y a pire que nous encore, même si effectivement vous avez raison, ces crises à répétition vont nous faire prendre du retard sur un tas de questions, mais pas seulement l'Europe. Enfin, on est tous interdépendants, donc même s'il y a des pays qui subissent un peu moins ces répercussions que d'autres, la Chine, les États-Unis n'ont pas intérêt à avoir une Europe qui plonge sur le plan industriel, sur le plan technologique, donc... Vous voyez, il y a quand même une interdépendance qui fait que on n'a pas intérêt à ce que l'une ou l'autre des puissances économiques soit affaiblie. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Robin tout à l'heure, parce qu'on ne sera pas d'accord sur ce sujet. Quand il dit qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, je pense qu'il est important de réfléchir en termes de coût d'opportunité quand on parle d'énergie. C'est-à-dire que moi, je veux bien effectivement admettre que oui, il y a eu des progrès techniques formidables dans l'éolien, le solaire, mais la question qui se pose, c'est à quel résultat on renonce quand on a pris la décision d'investir 1 euro dans telle technologie plutôt qu'une autre. Est-ce que cette réduction des coûts, on ne l'aurait pas observée de manière plus impressionnante encore si on avait investi cet argent dans la filière la plus efficace aujourd'hui pour décarboner notre économie? Parce que quand vous regardez l'expérience à l'échelle mondiale, les seuls pays qui ont amorcé, qui ont pu amorcer une décarbonation massive de leur industrie sont les pays qui ont déployé de l'hydro et du nucléaire. C'est-à-dire que ce sont là les deux seules sources d'énergie, en tout cas les plus efficaces, pour maintenir un niveau de vie décent pour les populations, tout en décarbonant l'économie. Donc moi, je me pose la question, est-ce qu'on fait bien de continuer à dilapider des sommes dans des industries, dans des sources d'énergie qui ne sont pas les plus efficientes? Et d'ailleurs, quand on lit la littérature écologiste, il faut bien comprendre que les penseurs, les grands théoriciens de l'écologie politique ont toujours assumé que les renouvelables seraient incapables d'alimenter une civilisation développée. Et ils s'en réjouissaient. Parce qu'encore une fois, ce sont des gens... Ah ouais. Ce sont des gens, quand vous lisez par exemple des gens comme Serge Latouche ou Murray Bouchkin, des grandes figures de l'écologie politique, ce qu'ils reprochent essentiellement au nucléaire, c'est son efficacité. En gros, ils disent le nucléaire, c'est une énergie abondante, donc ça ne va pas forcer les sociétés humaines à devenir plus sobres, à devenir plus en phase avec l'état de nature. Donc il y a une espèce de vision rousseauiste de la société qui consiste à rejeter par principe les énergies les plus abondantes parce qu'on ne fait pas confiance dans la capacité des sociétés modernes à en faire bon usage. Donc attention à ne pas tomber dans le piège de ces gens-là déployant nos ressources dans des sources d'énergie qui, on le voit bien aujourd'hui, nous mènent vers le rationnement, puisque c'est bien ça dont il est question aujourd'hui. On va se rationner parce qu'on a dilapidé des sommes astronomiques dans une énergie inefficace. Et quand vous parliez de l'Afrique, aujourd'hui vous avez beaucoup de dirigeants qui, au contraire, pestent contre les énergies renouvelables, comme le président ougandais qui a récemment tenu une tribune d'en France pour dire « mais nous on en a marre d'être assignés à des panneaux solaires et à des éoliennes qui ne nous permettent pas d'alimenter des grands complexes hospitaliers, industriels. On veut aussi une source d'énergie abondante et on est en droit, enfin ils sont en droit de le réclamer.
Serge Latouche, dont on vient de rééditer en format poche la théorie de la décroissance. Alors si vous voulez lire de la théorie de la décroissance, autant aller à la vraie première bonne source. Voilà, c'est dit. Un petit mot quand même pour finir, messieurs, sur l'annonce d'Amazon qui va augmenter le prix de son abonnement Prime de 43%, donc grosso modo on va passer de 49 à l'année à 69%, à 69 euros. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est un aveu de faiblesse ou bien est-ce qu'au contraire c'est un signe de puissance? C'est-à-dire qu'en gros c'est maintenant, brave consommateur, une fois que vous pouvez plus vous passer de mon Amazon Prime que je vous ai offert quasiment, maintenant vous allez payer beaucoup plus cher, ou bien est-ce que Amazon a vraiment des difficultés financières? Romain Rivaton.
Si vous me permettez de faire un lien entre le sujet précédent et celui-ci, il y a un lien évident, c'est que l'Europe est quand même un continent qui devient de plus en plus un continent de consommation, alors qui est masqué par cette superpuissance qui est l'Allemagne et qui a vraiment spécialisé son modèle, mais encore une fois, comme on l'a dit, sur une base extrêmement fragile. Mais le reste du continent est perçu, notamment depuis les États-Unis et même la Chine, comme un continent dont on extrait de la richesse. Fergan disait ces deux blocs n'ont pas intérêt à ce que l'Europe s'effondre, c'est certain, mais ils ont tout intérêt à pouvoir en extraire le plus de valeur possible. Et aujourd'hui, alors encore une fois, on est masqué par ce fait qu'on a une puissance exportatrice au milieu qui génère un surplus commercial, et donc on se dit, en fait, l'Europe génère un surplus commercial par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, et donc en réalité, se porte très bien. Mais non, parce que les déterminants de très long terme ne sont pas orientés là-dedans. Aujourd'hui, on est sur cette spécialisation manufacturière. Demain, on voit bien que sur toutes les industries où on peut extraire de la valeur, et le numérique a cette capacité incroyable à pouvoir extraire de la valeur très, très rapidement. Et donc l'exemple d'Amazon en est la meilleure preuve. On commence petit, on offre un service qui est très spécialisé, et puis tout d'un coup, on est plus large, on commence à augmenter ses prix, on a une capacité d'un pricing power avec le numérique qui est très très fort. La capacité des consommateurs à trouver des solutions alternatives est extrêmement limitée. C'est quoi la solution alternative? C'est de prendre un abonnement sur le streaming du service de télé français, du service public.
Il n'y a pas de concurrence.
C'est quoi les concurrences? C'est Apple
Netflix,
TV européen.
Apple TV, il y a le piratage.
Non mais c'est quoi Apple TV européen, Hulu européen, HBO européen, Disney Plus européen? Non, il n'y en a aucun des tous ceux qui sont européens.
On a oublié Salto.
Netflix, pardon. Donc voilà, on a nos petits bijoux nationaux à nous. Donc on voit bien que la réalité, c'est que on est de plus en plus dans une position d'infériorité, et ce pricing power, cette capacité à augmenter très fortement ses prix, c'est le propre du numérique.
André le Scrooge Pietri.
On parlait au début du fait que les crises étaient une opportunité. Moi, je reste quand même fondamentalement optimiste quand je vois ce genre de décision par Amazon. Évidemment, c'est une manifestation de puissance. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Robin, mais ça montre bien d'abord qu'il y a des économies d'échelle dans le numérique pour les fournisseurs de services et de logiciels, mais il n'y en a pas pour les clients. Donc, quand aujourd'hui on parle du sujet du cloud souverain et de l'indépendance, notamment par rapport à la maîtrise des données, on se rend compte aujourd'hui que quand on est dépendant de ces géants-là, en plus, on va avoir des coûts qui vont devenir absolument astronomiques. C'est-à-dire, ils vont pas du tout se réduire. Il y a ce qu'on appelle le vendor lock, et en plus, on est coincé parce qu'on est tellement habitué à un service qu'on va pas en sortir. Ouais. Après, il y a le pragmatisme et l'agilité d'Amazon, les prix, les coûts aujourd'hui des livreurs, des gens qui travaillent dans les entrepôts logistiques ont doublé aux États-Unis hein, dans les 12.
Oui, c'est ça. Un des arguments, c'est de dire attendez,
les coûts d'exploitation.
Nous, on fait de la logistique, le carton, le transport.
Donc, ils utilisent de manière très opportuniste, avec un vrai argument en disant nos coûts ont augmenté, donc on va le transférer aux clients. Après, moi, je reste fondamentalement optimiste. Je pense que je crois que l'Europe a encore, la France et l'Europe a cette capacité à se dire, ben voilà, cette crise, utilisons-la pour véritablement se projeter dans le coup d'après, qui est quand même le monde décarboné. Il ne faut quand même pas oublier les incendies.
Romain l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on a dit à chaque crise.
C'est sûr.
Ça n'a été que des occasions manquées.
Mais je pense qu'il faut rester fondamentalement optimiste, parce que sinon, effectivement, on peut tout de suite se recoucher le matin.
C'est
mais je pense que là, pour le coup,
du 45e étage. Et qui, en passant devant le 20e, se dit jusque-là tout va bien. En passant devant le 10e, se dit jusque-là tout va bien. La question, c'est à quel étage on est en train de passer.
La grande différence d'aujourd'hui, c'est qu'on a encore ce ressort humain. Ouais. Oui, peut-être sur le long terme, l'éducation ne donne pas des bons signes, mais on a ce ressort humain qui ne va plus en Chine et qui probablement va un petit peu moins aux États-Unis qu'avant. Donc il est encore chez nous. Maintenant, ce qu'il faut, c'est libérer les énergies pour qu'ils nous projettent dans le monde après.
Oui, c'est le commerce entre amis, comme disait Jeannette Yellen. Fergan, pour terminer, Amazon, est-ce que c'est pas aussi la crainte que ce qui est le principal business d'Amazon, à savoir le cloud et les services informatiques, s'il y a une récession, je crois qu'il y a aussi des prévisions de recettes publicitaires moins importantes pour les GAFAM. Est-ce que c'est pas ça aussi qu'il y a derrière cette hausse
des prix? Peut-être. Aujourd'hui, Amazon justifie cette augmentation de prix avec deux arguments. Premièrement, la hausse des coûts d'exploitation, la main-d'œuvre, le transport, l'énergie. Prime, c'est essentiellement de la livraison. Hein. Le streaming, c'est une activité qui a été ajoutée. Après, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais c'est d'abord avant toute chose la livraison. Donc, c'est vrai que les coûts de transport ont augmenté. On ne peut pas vraiment dire que là-dessus, ils mentent. Bon. Après, est-ce que le client va accepter cette augmentation de prix? Vous savez, la grande différence, on a beaucoup parlé de la redevance audiovisuelle avec France Télé. Bon, la différence, c'est que là, pour se désabonner de Prime, c'est très facile, c'est un clic. Hein. Donc, on verra. C'est-à-dire que, ou bien, le pari d'Amazon est gagnant, puisque eux, en effet, sont partis du principe que cette augmentation de prix aux États-Unis ne s'est pas traduite par une hémorragie de consommateurs. Il n'y a pas eu beaucoup de.
Ça a donné un coup d'arrêt quand même.
C'est possible, mais dans ce cas-là, effectivement, ils le font à leurs risques et périls. Maintenant, c'est le consommateur final qui jugera en dernier ressort, et c'est aussi la beauté, je crois, d'une économie de marché, c'est de pouvoir dire voilà, je suis d'accord avec ta politique tarifaire ou non.
Eh bien, ce sera le mot de la fin, la beauté de l'économie de marché. Fergan Aziari, merci à vous, merci André Lescroc-Pietri, merci Robin Rivaton pour ces experts de haute volée. Nous, on se retrouve demain.